général. C'est un, la sécurité d'Israël, mmh. et sa suprématie militaire dans la région. Donc, la victoire du Hezbollah, double victoire en 2000, lorsque, sous la pression du Hezbollah, l'armée israélienne décide de se retirer sans condition du Liban. C'est du jamais vu, n'est-ce pas ? Mmh. Et puis 2006, lorsqu'il essaye, Israël essaye de l'éradiquer de nouveau, hein, il résiste contre toute attente et il parvient même à couler un des navires israéliens. Donc, hop ! Et donc, dans cette politique occidentale, il faut absolument, si vous voulez, que Israël puisse continuer tranquillement d'avoir cette supériorité militaire totale par rapport à tous ses voisins. Parlons pas de l'arme atomique aussi, des 200 têtes atomiques qui existeraient en Israël.
Existeraient, vous dites, hein, vous êtes prudent. Bah, hein.
Alors, la sécurité d'Israël suppose qu'on supprime le Hezbollah. D'où d'ailleurs récemment l'Union européenne qui décide d'inscrire sur la liste des organisations terroristes le Hezbollah. Ce qui va permettre dans l'avenir, lorsque l'armée israélienne voulait prendre sa revanche et donc refaire une attaque sur le Hezbollah au Liban, de dire « mais moi, je m'en prends à une organisation terroriste qui me menace, je fais une guerre tout à fait légitime ». Donc on a fait un grand cadeau à l'État d'Israël avec cela. Le régime syrien est très proche du régime iranien. Le régime iranien empêche aussi les Israéliens de dormir, puisqu'on l'accuse de vouloir développer l'arme atomique. Donc, si vous voulez, il y a cet axe Iran-Syrie-Hezbollah qui est dans le collimateur de l'Occident depuis longtemps. Et avec les développements supposés, n'est-ce pas, de capacités atomiques en Iran, la situation s'est échauffée. Et je pense que dans les cris de guerre guerriers qu'on a entendus, y compris en France, c'est oui, bon, allons-y, il faut en finir avec cet axe. En fait, c'est ça le problème de l'Occident. La grosse surprise, il y a eu deux grosses surprises par rapport aux décideurs occidentaux. Un, le régime ne s'est pas effondré comme un château de cartes, comme le faisaient beaucoup d'analystes, parce que s'il a perdu, justement, il y a un mécontentement des campagnes, et c'est dans des villes rurales que tout cela a commencé, en plus des villes rurales aux frontières. La ville de Deraa est à la frontière avec la Jordanie, et Idlib et Jisr-el-Shorour sont à la frontière avec la Turquie. Ce qui faisait que le mouvement de contestation n'avait pas grand-chose à voir avec les mouvements qui ont eu lieu en Égypte et en Tunisie.
C'est ça, vous le soulignez souvent dans vos interventions, oui, parce qu'on a dit, voilà, c'est les révoltes arabes. Alors on sait, un engouement pour la Tunisie, à juste titre, et puis l'Égypte. Le Yémen, ça c'est un peu plus loin.
Alors le Yémen, on s'est tué maintenant.
Oui. Et puis alors, il y a eu la Libye. Et puis la Syrie. Et vous dites, non, la Syrie, c'est une autre histoire, ce que vous êtes en train de raconter.
C'est une histoire plus compliquée que celle qu'on a dit, n'est-ce pas ? Là encore, le régime avait encore de la base sociale. Ce n'était pas un régime à la Moubarak complètement discrédité. Alors, que l'appel à la liberté, qui est un appel des classes moyennes dans le monde arabe, était là, bien sûr. Et puis 40 ans d'un parti unique, même s'il s'est mis comme décor deux ou trois petits partis nationalistes arabes avec lui, en alliance, les gens en avaient assez, ce qui est normal. Mais entre une situation de chaos, où le pays est détruit, où arrivent de l'extérieur, on parle aujourd'hui de 90 000 à 100 000 combattants qui sont venus de l'extérieur, et le régime en place, en réalité, beaucoup de gens préfèrent le régime.
La majorité ?
Je ne sais pas s'il y avait un référendum libre aujourd'hui, il y aurait des chances pour que la majorité aille au régime. Parce que le contraste est tellement fort entre la pagaille dans les zones libérées et ce qu'on vous montre d'ailleurs de Damas et ce que nous savons de Damas.
On en est où aujourd'hui ?
Elle se fait plutôt silencieuse, l'opposition de l'extérieur. Bon, elle a subi la bataille entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, parce que finalement, le changement de régime à Qatar, ou le changement de prince gouvernant, et son cousin, qui était redoutable, qui s'est opéré comme ça, comme par un coup de baguette magique. Ils sont tous les deux sortis du champ de l'observation politique et il a remis le pouvoir au troisième fils de la Cheikha Moza, qui était la flamboyante épouse, troisième épouse du prince. Et ça, c'était le résultat d'une autre bataille dont la presse n'a jamais parlé, qui était la bataille pour l'influence dans le monde arabe, la rivalité entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Mais bon, quand vous regardez la carte géographique, à mon avis, c'était une bataille perdante, c'est bien évident.